franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'Éthiopie, des origines jusqu'au XVIIe siècle. L'Empire d'Éthiopie, c'est un état d'exception. Il s'est établi sur une des terres où apparut l'humanité, au pays où naquit Lucie, il y a 3 millions d'années. Il a pour lui la durée. Nulle colonisation ne l'a jamais abattu. Enfin, touché, voire pénétré par les grandes routes commerciales contrôlées par les musulmans, il est demeuré chrétien. Destination Éthiopie, donc aujourd'hui, où, entre le 3e et le 17e siècle, on croisera les silhouettes de la méchante reine Judith, de la belle reine de Saba, celle du prêtre Jean, et en chair et en os, c'est promis, on vous expliquera le sens des mots, le négus. Et l'abouna. En attendant ces merveilles, l'invité de la marche de l'histoire, Bertrand Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire à Paris 1, qui s'est destiné à l'histoire de l'Afrique assez tôt, et dans l'histoire de l'Afrique, à celle de ce pays qui avait l'avantage, pour un jeune homme comme vous, de ne pas avoir été colonisé par la France.
Oui, c'est cela. J'appartiens à une génération qui, comme toutes les générations, a voulu rompre un peu avec celle de ses pères. Et beaucoup d'entre nous avons choisi d'aller étudier l'histoire de pays qui n'étaient pas d'anciennes colonies françaises.
Dans la vieille Afrique, il y a beaucoup de royaumes et d'empires. Et vous dites que ces royaumes et ces empires ont une histoire qui est nouée à celle des grandes routes de commerce.
Oui, contrairement à ce que l'on pense, d'abord l'Afrique, depuis longtemps, est ouverte sur le monde. Et elle s'est ouverte sur le monde, en particulier par le commerce.
Alors, nous allons procéder par étapes. Nous verrons se profiler plusieurs dynasties. J'ai promis la reine de Saba et la reine Judith. Ça viendra. Mais commençons par le commencement, par le royaume d'Aksum. Alors, ce royaume d'Aksum, il naît justement du commerce. C'est le commerce qui permet la première forme d'État en Éthiopie.
Oui, je serais moins catégorique que cela, parce qu'il est toujours difficile pour nous d'assigner l'origine d'une formation étatique à un seul phénomène. Mais il est certain, ce que l'on peut dire, c'est que ce royaume d'Aksum, c'est un grand royaume de l'Antiquité.
On est à quelle époque, là ?
On est au tout début de l'ère chrétienne. Il y a des formations auparavant qu'on appelle pré-aksumites, mais disons que le royaume d'Aksum, véritablement, se développe au début de l'ère chrétienne, et il va dominer le nord du haut plateau éthio-érythréen jusqu'au 7e siècle.
Oui. Vous parlez de haut plateau, mais moi j'insiste sur le rôle du commerce. Il y a un port.
Ah, il y a un port, oui, il y a des ports. Il y a un port qui est le port d'Adoulis, qui est connu par les sources écrites. Il y a eu quelques fouilles de fait, mais qui n'a jamais été fouillé in extenso. Mais on sait que de ce port, qui est sur les bords de la mer Rouge, bien entendu, dans des zones extrêmement chaudes, partaient des caravanes pour monter sur le haut plateau jusqu'à Aksum. Le royaume d'Aksum était situé sur les hautes terres, entre 2000 et 2500 mètres d'altitude.
La capitale de ce premier royaume des débuts de l'ère chrétienne, Aksum proprement dite, elle a été en revanche explorée par de nombreux archéologues et même des Français. Hommage soit rendu, un de plus, à Jean Leclan qui est mort chargé d'honneur cet été 2011 et qui dans sa jeunesse était chargé par la France des antiquités éthiopiennes.
Nous en sommes pour l'archéologie éthiopienne au tout premier commencement. Une expédition allemande a travaillé à Aksum en 1905. Mais tout cela, ce n'est qu'un premier début.
Oui, alors, comment peut-on reconstituer, enfin, dans les grandes lignes, schématiquement, l'histoire éthiopienne? Tout d'abord, je pense à ces monuments, ces menhirs barbares, qui sont peut-être l'origine des fameux obélisques d'Aksum.
Oui, je ne sais s'il y a continuité, car, d'une part, ces pierres phalliques, disons le mot, semblent représenter en quelque sorte un aspect proprement africain. Tandis qu'avec les obélisques d'Aksum, nous sommes plutôt dans un domaine d'influence sud-arabique et aussi des influences africaines.
Africaines, oui, de la très vieille Afrique.
L'intervieweur, c'est Pierre Ichac, c'est en 1953. Des pierres phalliques, dit Jean Leclan, des monolithes, des obélisques, des menhirs. Ça a beaucoup frappé les imaginations, y compris d'ailleurs celles des lettrés des temps ultérieurs d'Éthiopie.
Oui, bien sûr. Alors, il faut dire qu'on trouve en Éthiopie des cultures mégalithiques. depuis l'extrême sud de l'Éthiopie jusqu'à Aksum, avec des formes extrêmement variées, bien entendu. Hein, donc Aksum, de ce point de vue-là, n'est pas une exception. Même s'il a raison, ces monuments, qui sont des monolithes, des monuments funéraires, ont à Aksum un aspect tout à fait particulier. Les lettrés éthiopiens du Moyen-Âge ont été très frappés par ces monuments. Ils ne savaient plus sculpter la pierre de cette façon-là. Ils ont découvert des trônes, ils ont découvert des inscriptions, parfois qu'ils pouvaient lire, dans l'anglaise, on y reviendra, parfois qu'ils ne pouvaient pas lire, en grec ou en sabéen. Et donc, dès le Moyen-Âge, on voit bien, se met en place une interprétation éthiopienne de ces ruines antiques.
L'anglaise, avez-vous dit ?
Oui, l'anglaise, alors, c'est le nom que porte la langue qui était probablement parlée à l'époque d'Aksum, qui va ensuite disparaître avec la fin d'Aksum, au 7e, 8e siècle, mais qui va être conservée comme langue de culture. En gros, si vous voulez, c'est notre latin. Elle va jouer le rôle de langue d'église jusqu'à aujourd'hui. C'est cette langue que maîtrisaient les lettrés du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui.
C'est dans cette langue que sont formés clercs et séminaristes. Un extrait d'un documentaire de 96 consacré à l'Éthiopie par Bernard Dabrigeon.
La classe se tient en plein air. Par petits groupes, les élèves qui se destinent à la prêtrise apprennent l'antique langue religieuse de l'Éthiopie, le gèze. C'est dans cette langue ancienne, aujourd'hui exclusivement réservée à la lecture des textes sacrés, que les prêtres se transmettent l'enseignement traditionnel de l'Éthiopie médiévale.
Le royaume est chrétien.
Alors, le royaume est christianisé, semble-t-il, enfin, ses élites, le roi, en tout cas, le roi Ezana, au milieu du 4e siècle, vers 330-340. On ne sait pas du tout ensuite quels ont été les processus exacts de christianisation de l'ensemble de la population d'Aksum.
Alors, ce royaume chrétien se sépare de l'Église, allez, je vais l'appeler universelle, au 5e siècle, au moment du concile de Chalcédoine. Grand débat sur la nature du Christ. Les coptes d'Éthiopie, comme les coptes d'Alexandrie, choisissent le monophysisme. J'avais promis l'explication du mot « abouna ». Le mot existe déjà,
oui,
pensez-vous, à l'époque, c'est le chef de l'Église ?
Le Abuna, oui, ça veut dire notre père, en fait, en gèze. C'est le chef de l'Église. Et c'est, alors, l'Église éthiopienne est sous dépendance hiérarchique de l'Église d'Alexandrie. Et c'est pour ça qu'elle fait partie de ce monde monophysite, donc qui met plutôt l'accent sur une nature, la nature divine du Christ.
J'avais promis aussi qu'on ferait le portrait de la reine Judith, je ne sais si vous en êtes extrêmement partisan, rôde autour du royaume d'Aksum des musulmans de plus en plus nombreux. C'est une des raisons des difficultés du royaume qui décline. Et fin 10e siècle, dans ces tout derniers temps, avant la grande rupture, il y a cette reine mystérieuse.
Oui, alors, il y a deux choses. Il est certain que la fin d'Aksum est mal connue, mais le fait que la mer Rouge devienne une zone contrôlée par les musulmans fait que le commerce avec l'extérieur devient très difficile pour Aksum. C'est sans doute une des raisons du déclin du royaume aksumite, avec d'autres qui sont évoquées. Ensuite, on a cette légende, parce que c'est une légende, d'une reine, Judith, qui se serait vengée en fait des mauvais traitements qu'on lui aurait fait subir à Aksum et qui aurait détruit la ville. Évidemment, on en fait une reine juive. Hein, qui aurait détruit l'Aksum chrétienne.
On reparlera des relations voilà. De l'Éthiopie avec le judaïsme.
Ce qu'on peut dire, c'est un mythe, bien entendu, et vous voyez que c'est un mythe inversé de celui de la reine de Saba. La reine de Saba est censée être celle qui a apporté le monothéisme en Éthiopie et fondé la dynastie dite salomonienne, et on fait une rupture forte avec une autre reine, mais qui est une reine méchante, on l'appelle aussi le feu, la destructrice, qui aurait mis à bas Aksum.
Juive, païenne, renégate, bien avant que le souvenir de la reine de Saba ne s'impose lors d'une dynastie ultérieure, il y a donc ce personnage légendaire qui symbolise le déclin et puis qui accompagne le glissement territorial du royaume. Le royaume d'Aksum prend fin et il faut que son successeur s'installe sur des terres protégées.
Oui, il y a un glissement vers le sud. Il y a un glissement indéniable vers le sud. Là aussi, les premières étapes sont mal connues. Ce que l'on peut dire, c'est que vers la fin du XIIe, XIIIe siècle, On connaît une nouvelle dynastie installée, alors peut-être dans la partie orientale du Tigré et un peu plus au sud, il y a la dynastie dite des Agouets, qui va être remplacée à partir de 1270 par une dynastie dite salomonienne.
Alors on va d'abord s'arrêter aux Agouets, mais continuez.
Ouais, qui donc se proclame descendante de Salomon. Et là, ce sont des régions encore un peu plus au sud, c'est en gros la région des populations Amara. Oui, donc il y a une descente indéniable vers le sud. C'est peut-être aussi pour aller trouver de nouvelles terres et de nouveaux produits pour le grand commerce.
C'est à cette nouvelle dynastie, les Agouets, et à l'un de ses rois, l'Abilela, qu'on doit une des merveilles du monde, une autre Jérusalem, un projet de dizaines d'années de travail qui nécessite la venue de tailleurs de pierre de très loin. Toujours le documentaire de 96 de Dabrigeon.
Étrange lieu, aucun sanctuaire n'est apparent. Où est la basilique? Où est la cathédrale? Où sont les églises? Rien n'émerge au-dessus du sol. Il est significatif de remarquer qu'à la même époque, 12e, 13e siècle, l'Occident élevait ses cathédrales vers le ciel. En Éthiopie, on se cachait. Là-bas, on affirmait sa foi en pleine lumière, on la proclamait au grand jour. Ici, le culte du mystère, du secret. Église de Saint-Georges, taillée dans le roc, à la fin du XIIe siècle, par le roi Lalibela, qui donna son nom à la ville. On aurait mis 20 ans pour excaver les 11 églises de Lalibela. Une tâche gigantesque pour l'époque, impossible en si peu de temps, bien sûr. Mais le merveilleux de la légende explique tout. Ce fut un miracle. Les anges auraient continué la nuit, le travail accompli le jour par les hommes. En fait, il a fallu au moins un siècle pour achever cette œuvre considérable.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec aujourd'hui pour parler de l'Éthiopie ancienne, Bertrand Hirsch, professeur à l'université de Paris 1, spécialiste de ces royaumes d'autrefois. Nous sommes ici à Lalibela, au milieu de notre Moyen-Âge, au 12e,
exactement,
13e siècle.
Mais un mot sur Lalibela, si vous voulez bien. Parce que la recherche a fait des progrès quand même ces dernières années sur ce site absolument exceptionnel. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'assigner au roi Lalibela. C'est quelque chose qui a été excavé pendant beaucoup plus longtemps que le règne d'un roi, bien entendu. Et des recherches très récentes montrent qu'il y a eu plusieurs étapes d'établissement de ce site. Autre chose, l'attribution des églises. On parle par exemple de l'église Saint-Georges, et puis on parle d'autres églises, l'église de la Vierge, etc. Ces attributions, on le sait aujourd'hui, sont des attributions postérieures. Ce sont des attributions là aussi qui datent de 2-3 siècles après et qui peuvent ne pas avoir été du tout les noms et les fonctions qu'occupaient ces églises à l'époque ancienne. Vous voyez que donc...
Vous êtes un grand destructeur de légendes et que vous ne voulez pas nous faire croire que les anges ont achevé le travail d'un roi.
Ça, j'aurais adoré. C'est pas la partie qui me gêne le plus.
Alors, je vous ai interrompu au moment où vous parliez du registre des fêtes. En quoi y a-t-il différence avec les fêtes d'Occident?
D'abord, le calendrier n'est pas du tout le même. Le compute, vous savez que le compute éthiopien n'est pas le compute grégorien. On calcule le temps différemment, on calcule le début des ères différemment. Et donc, par exemple, le début de l'année va être au mois de septembre. On retrouve évidemment des grandes fêtes qui sont les mêmes, mais souvent décalé dans le temps. Voilà. Et puis, moi, je dirais surtout, c'est vrai, l'Éthiopie contemporaine, ces fêtes restent des fêtes extrêmement populaires, parce qu'elles ne sont plus, depuis longtemps, chez nous, à la fois familiales et collectives.
L'observance du sabbat, qui fait partie du calendrier de l'Église copte, le sabbat, est encore effective?
Oui, alors... Ça a été une grande question à l'époque médiévale, c'est surtout ça qui est intéressant. À l'époque médiévale, donc, on sait que l'Église éthiopienne, les fidèles, respectaient ce qu'ils appelaient le sabbat des Juifs, le samedi, et le sabbat des chrétiens, le dimanche. Donc, les deux sabbats. Et puis les représentants de l'Église copte, l'Abouna, donc, venait d'Égypte, se sont insurgés contre cette pratique en disant ce sont des pratiques. Le sabbat, c'est juif, c'est pas chrétien. Donc il faut abandonner. Il y a une controverse très très forte au sein de l'Église éthiopienne.
C'est d'Alexandrie qu'est venue la rupture dans le judéo-christianisme.
Exactement. Et ils ont accusé en gros les chrétiens d'Éthiopie de pratiques judaïsantes, ce qui sera le cas aussi des missionnaires jésuites un peu plus tard. Mais l'Église éthiopienne a résisté, une grande partie de l'Église éthiopienne, et finalement le pouvoir royal, en la personne du roi Zara Yacob au XVe siècle, a décidé de conserver ces deux sabbats.
Mais il faut dire que c'était un roi de la dynastie salomonienne. Alors, 1270, on avance dans le temps, la dynastie Zagwe est supplantée par la dynastie salomonienne, des rois qui se disent descendants de Salomon, roi d'Israël, et de la reine de Saba. Alors avant que vous ne détruisiez une légende de plus, laissez-moi introduire un péplum, si vous le voulez bien, Yul Brynner et Gina Lollobrigida dans le rôle de la reine de Saba, qui se double elle-même.
Entre en scène la reine de Saba et sa merveilleuse histoire d'amour. Saba est située au Yémen et sa reine se serait rendue à Jérusalem. Vers 950 avant Jésus-Christ, elle aurait été attirée par le prestige et la sagesse du roi Salomon, fils de David. Elle aurait organisé une caravane chargée d'or, d'encens, de pierres précieuses et lui aurait rendu visite. Leur rencontre aurait été fulgurante, comme le montre avec beaucoup de tendresse naïve cette peinture éthiopienne.
Auguste Majesté, permettez-moi de vous présenter ma souveraine, son Auguste Majesté, la reine de Saba.
Israël souhaite la bienvenue à votre majesté.
Je remercie votre majesté de m'avoir permis de visiter votre magnifique cité. Mais d'abord, laissez-moi vous offrir un témoignage de ma reconnaissance pour la gracieuseté que vous avez montrée à une étrangère, votre invitée.
Il ne saurait y avoir de mots pour exprimer ma gratitude, tout comme celle de mon peuple.
Et avec ce présent, je tends la main. Dans l'espoir que cette date va faire s'ouvrir une très étroite amitié entre Israël et Saba.
Alors le rapport via le Yémen entre Israël, l'Éthiopie et cette dynastie salomonienne.
Oui, bah comme le montre très bien cet extrait.
Ah bah je suis content que vous rendiez hommage.
Il s'agit d'abord avant tout d'une histoire biblique. Donc la visite d'une reine, dite reine de Saba, au roi Salomon. Alors à partir de quelques phrases de la Bible, il y a eu une exégèse considérable dans des cultures très différentes. Culture juive, culture musulmane, culture chrétienne. On ne sait pas exactement dans quelles conditions ni à quelle époque cette histoire est arrivée en Éthiopie. Probablement, à mon sens, dès l'époque des Zagwe, c'est-à-dire au XIIe, XIIIe siècle. Probablement aussi par des textes qui venaient d'Égypte, des textes en arabe qui venaient d'Égypte. Toujours est-il que les Éthiopiens vont récupérer ce legs mythologique et intégrer la reine de Saba à leur culture et en faire une reine éthiopienne. On sait que dans la Bible, il ne s'agit pas d'une reine éthiopienne, c'est probablement une reine, effectivement, d'un des royaumes de l'Arabie du Sud. Ils en font une reine éthiopienne qui va aller voir Salomon, il n'y aura pas une histoire, mais il brode beaucoup autour de ça. Et la reine de Saba va être séduite par Salomon, dans tous les sens du terme, et donner naissance à un fils, qui porte le nom de Ménélique Ier ou Emna Hakim, et qui est considéré comme le fondateur de la dynastie salomonienne en Éthiopie.
Et qui aurait dérobé l'Arche d'Alliance.
Voilà, en fait, c'est pas vraiment considéré comme un vol, c'est considéré comme, dans le grand texte qui raconte cette histoire, du côté des Éthiopiens, c'est raconté plutôt comme le passage de l'Arche dans un pays qui désormais est d'une certaine façon Israël.
C'est une cité disparue qui abritait vraisemblablement l'Arche d'Alliance.
L'Arche d'Alliance ?
L'arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements.
Mais vous voulez dire les 10 commandements ?
Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures.
Indiana Jones, un témoignage fiable. Mais Bertrand Hirsch, vous qui êtes un destructeur de légendes, où est-elle cette arche d'alliance ?
Ah bon, beaucoup de gens l'ont cherchée, l'arche d'alliance. Beaucoup ont pensé, alors en Éthiopie, on pense encore qu'elle est à Aksum. Mais non, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Éthiopiens, de cette façon, captent une légitimité qui est celle d'Israël et se considèrent, à l'époque médiévale en tout cas, comme d'une certaine façon le peuple élu. Celui qui non seulement est capable de respecter l'ancienne alliance et d'être rattaché directement au roi d'Israël, mais de respecter la nouvelle alliance. Je crois que c'est ça qui est fondamental dans la théologie politique des Éthiopiens du Moyen-Âge. C'est nous sommes au monde, dans le monde chrétien, les seuls à respecter à égalité ancienne alliance, nouvelle alliance. Et donc nous respectons aussi bien les interdits du Lévitique, donc les interdits alimentaires, le sabbat, etc., etc., que de ce qui est dit dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'évangile. Ils tiennent les deux choses à égalité.
Et les falachas, les juifs d'Éthiopie?
Alors là aussi, c'est une question très complexe. En gros, pour faire simple.
Merci,
Bernard. On sait, en Europe, on sait, en gros, à partir de la fin du 19e siècle, qu'il y a des communautés en Éthiopie qui se disent juives. Elle se nomme elle-même Bieta Israël, maison d'Israël. D'accord. On va envoyer des experts pour voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de vrais juifs, ou entre guillemets, ou pas? Très bien. Finalement, l'Alliance israélite universelle va décider qu'effectivement, ce sont des juifs. Et c'est le début d'un long processus qui va aboutir au départ des falachas vers Israël. Alors, du point de vue des historiens, la question se pose, à mon avis, de la façon suivante. On ne connaît pas de présence juive ancienne en Éthiopie. On n'en a pas de traces. On a des traces en Arabie, par exemple. On n'a pas de traces en Éthiopie. On a des traces de gens qui se réclament, d'une certaine façon, du judaïsme à partir de l'époque médiévale, à partir du XIVe siècle. D'où deux interprétations. La première, fin 19e, début 20e, ce sont des gens qui sont rattachés à un rameau juif qui s'est installé en Éthiopie, voire une des 12 tribus perdues d'Israël. Deuxième hypothèse, qui est celle qui a été depuis une trentaine d'années avancée, il s'agit plutôt au sein même de l'Église d'Éthiopie, de gens qui se sont tournés volontairement vers l'Ancien Testament.
Des vieux croyants.
Des vieux croyants, exactement. J'ajouterais qu'il y a peut-être une troisième hypothèse, c'est qu'on peut avoir là aussi des gens qui sont marqués, qui ont été convertis anciennement à une forme de judéo-christianisme, comme est l'Église d'Éthiopie originelle, et qui aurait évolué de manière un peu indépendante. Parce que l'apparition au plein Moyen-Âge de ces groupes se rattachant à l'Ancien Testament pose quand même problème.
L'Éthiopie, réservoir de légendes pour l'Alliance israélite universelle, son voyageur à Lévis à la fin du XIXe siècle, pour les chrétiens d'Europe occidentale, bien avant, dès le 15e, 16e siècle, on note la présence d'un envoyé du roi du Portugal dès 1493 à la cour impériale d'Éthiopie. Il n'en repartira d'ailleurs jamais. Depuis longtemps, les chrétiens savaient qu'il pouvait y avoir un royaume idéal. On y pensait depuis le XIIe siècle, qu'on appelait le royaume du prêtre Jean. Un royaume où le christianisme aurait été accompli. Et alors on cherche à le localiser. Et à partir du XVe, XVIe siècle, c'est vrai, l'Éthiopie n'est plus hors d'atteinte pour les Européens.
Oui, encore un mythe efficace. On va chercher ce souverain légendaire sur les routes de l'Asie au XIIIe siècle. Ces routes d'Asie se ferment à la fin du XIIIe siècle. On sait, essentiellement par la présence de communautés monastiques éthiopiennes à Jérusalem, on sait, on connaît l'existence d'un royaume chrétien au-delà de l'Égypte. Et c'est au début du XIVe siècle que les lettrés européens identifient ce royaume à celui du prêtre Jean. Et ça va marcher, ça va fonctionner. On va faire, à partir de cette époque-là, jusqu'au XVIIe siècle, une équivalence entre roi d'Éthiopie et prêtre Jean. C'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les Portugais, bien entendu. Lorsqu'ils commencent, à la fin du XVe siècle, l'exploration des côtes méridionales de l'Afrique, puis le contournement de l'Afrique, ils ont en tête, c'est une obsession, trouver le prêtre Jean et faire avec lui une alliance militaire contre les musulmans. C'est ça le grand rêve, on dirait avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, géopolitique de l'Europe chrétienne. C'est trouver un allié de revers pour mettre à bas la puissance musulmane.
Alors la puissance musulmane cerne, notamment depuis les zones littorales, les hautes terres du royaume du prêtre Jean, enfin de l'empire du Négus. Alors ces royaumes soit sont vassalisés, soit attaquent les Éthiopiens, qui d'ailleurs vont demander le secours des Portugais en cette occasion. Et les menaces se font très précises au XVIe et au début du XVIIe.
Oui, oui. Alors, effectivement, comme vous le disiez, c'est très proche. C'est-à-dire qu'il y a des relations symbiotiques entre ces royaumes musulmans et les royaumes chrétiens. Ce sont des gens qui sont très, très proches culturellement. Bien. En même temps, pour la période 14e-15e, ces royaumes musulmans sont plutôt vassalisés par rapport au royaume chrétien, qui est plus fort. Les choses vont basculer au XVIe siècle. Les choses vont basculer parce qu'il y a un grand leader religieux, l'imam Ahmed, qui va fédérer les forces musulmanes de l'Est, qui va profiter aussi probablement de l'apport de nouvelles populations, de populations nomades, pour lancer alors une véritable conquête, un djihad de l'Éthiopie chrétienne, et qui va pratiquement réussir. C'est là que les rois chrétiens font appel aux Portugais.
Qui aident à la stabilisation et à l'installation, enfin, d'une nouvelle capitale permanente, bien protégée. Ce sera le dernier grand nom qu'on prononcera aujourd'hui dans cette histoire de l'Éthiopie ancienne, la forteresse de Gondar.
La ville de Gondar a la particularité rarissime en Éthiopie de posséder des ruines de châteaux forts en pierre de taille. Le style est d'influence portugaise. En effet, les Portugais aidèrent au XVIe siècle les chrétiens à lutter victorieusement contre l'islam. Les anges ont le regard tourné vers tous les horizons, les quatre points cardinaux, afin d'assurer une parfaite protection. C'est une peinture d'épopée, peinture hautement militante. Des croisés galopent, sus aux infidèles. On retrouve là l'obsession de l'encerclement par l'islam, qui a tant fait pour créer cette psychologie de l'isolement propre aux chrétiens éthiopiens.
Psychologie de l'isolement, on va s'arrêter là, c'est-à-dire au moment où le roi de Gondar, contemporain de Louis XIV, installe cette forteresse. Vous vous souvenez de ce que disaient vos maîtres qui trouvaient Bertrand Hirsch, que c'était un peu étrange de s'intéresser à l'Éthiopie. Ce n'est pas un vrai pays d'Afrique, c'est un pays d'exception.
Oui, c'est effectivement, c'est ce que j'ai beaucoup entendu. On était sceptiques, évidemment, à cause de cette exceptionnalité éthiopienne. En disant l'Éthiopie, ce n'est pas exactement un pays d'Afrique. Enfin, je dirais aujourd'hui que l'Éthiopie, dans l'histoire des savoirs européens sur l'Afrique, a une place exceptionnelle. Mais l'Éthiopie est bien un pays d'Afrique. Il n'y a aucun doute là-dessus.
C'est le mieux documenté ?
Alors, c'est sans doute le mieux documenté du point de vue de la documentation écrite. C'est l'évidence. C'est le royaume ou la terre qui a conservé jusqu'à aujourd'hui des milliers de manuscrits, pour l'essentiel des manuscrits religieux, mais qui font part aussi de l'histoire telle qu'elle a été conçue, pensée par les lettrés éthiopiens dès l'époque médiévale. Ça, c'est tout à fait exceptionnel.
Où est la capitale de l'Union africaine ?
Addis Abeba, bien entendu.
C'est l'œuvre du dernier Négus. On vous retrouvera un jour dans une émission sur la suite de l'épopée éthiopienne. Merci à vous, Bertrand Hirsch.
Merci à vous.
C'était La Marche de l'Histoire, avec son équipe en procession. Rémi Quincé à la technique, Jacques Sigal à la réalisation, à la préparation, Frédéric Martin, Franck Olivard et Meryl Moneghetti.